Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous et bienvenue dans Estelle Midi sur RMC tous les jours, midi 15h. Estelle est encore en vacances, mais ça approche à grands pas. Elle revient dès lundi prochain. Je peux vous le dire, je l'ai croisée là tout à l'heure dans les couloirs. Elle prépare ce lundi et elle est très en forme. Ce sera son retour donc sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. En attendant, autour de moi, aujourd'hui, j'ai toujours Mao Bécard-Granier pour nous donner toutes les infos pour tout comprendre. Salut Mao.
Salut Rémi, salut à toutes et à tous.
Thierry Moreau, le pilier de cet été dans Estelle Midi.
Bonjour
Thierry Moreau, journaliste.
À tous.
Emmanuel Dancourt, journaliste indépendante. Salut Emmanuel.
Bonjour tout le monde.
Et Pierre Rondeau, expert en économie du sport. Salut Pierre.
Salut, salut à toutes et à tous.
Dans un instant, ce mouvement de grève historique en Angleterre. Contre quoi ? Contre la hausse des prix. Tiens, tiens, ça vous dit quelque chose ? Mouvement soutenu par la majorité de la population là-bas. Y croyez-vous en France ? Vous nous appelez au 32-16 à 12h30. Le tabac, première cause de cancer en France et dans le monde. On le sait, c'est de nouveau confirmé par une nouvelle étude. Faut-il augmenter drastiquement les prix des cigarettes ? À 13h, aucune ville française dans le top 10 mondial des mieux adaptées au vélo. La cohabitation automobiliste-cycliste est-elle impossible en France ? À 13h30, le meilleur du jour sur RMC, ce sera le zapping. À 14h, ça fait mal au cœur, hein. Les ventes de camembert en France, talonnées par celles de mozzarella. Si, si, sommes-nous en train de perdre nos valeurs culinaires? À 14h30, les immanquables de Mao avec des affiches anti-vax interdites et le Japon qui recommande aux jeunes de se mettre à l'alcool. Enfin, le quiz d'Estelle avec à gagner aujourd'hui Mao.
A gagné aujourd'hui le tote bag RMC et le célèbre jeu de société le Milborn, parfait pour les soirées d'été, l'été qui se termine. Inscrivez-vous donc dès maintenant en appelant le 3216 touche 4 ou envoyez le mot quiz par SMS au 73216, quiz au 73216.
RMC Estelle Midi.
C'est la grogne du jour. Les cheminots anglais sont en grève depuis hier. Ils devraient bientôt être rejoints par les employés des ports, les facteurs, les éboueurs et même le secteur public de la santé dans les semaines à venir. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a moins de grèves souvent en Angleterre, mais quand elles sont là, elles sont massives. Celles-là s'annoncent inédites en cause, Mao, comme chez nous, hein, l'explosion des prix.
Alors c'est vrai qu'en Angleterre, l'inflation est particulièrement importante cette année. Les prix ont augmenté de 10,1% sur un an, un niveau jamais vu au Royaume-Uni depuis 40 ans. Et cette situation ne va pas s'améliorer dans les semaines à venir. L'inflation pourrait monter jusqu'à 13% puisqu'il est prévu que les tarifs de l'énergie augmentent également. Tous les prix s'envolent. Les produits laitiers, la viande, la boulangerie, mais aussi le papier toilette, les déodorants. Enfin, ce qu'on achète tous les jours. Conséquence, les plus fragiles souffrent et la situation se tend dans le pays. Des grèves voient le jour. Ça a commencé fin juin avec d'abord une grève massive des cheminots. Puis ça a continué au cours de l'été. Cette semaine, vous l'avez dit Rémi, les débrayages ont eu lieu dans les transports, mais aussi dans les instances judiciaires, à la poste. Les syndicalistes évoquent un été du mécontentement, référence non cachée à l'hiver du mécontentement de 1978-1979, un hiver où 13 millions de grévistes avaient mis le Royaume-Uni à l'arrêt pour protester déjà à l'époque contre l'inflation, jusqu'à, on le sait, l'arrivée ensuite au pouvoir de Margaret Thatcher, qui, avec sa main de fer, avait mis fin au mouvement. Hier, un train sur cinq circulait au Royaume-Uni et les syndicats n'arrêtent pas tant qu'il n'y aura pas un accord en leur faveur, explique-t-il. La rentrée des classes aussi devrait être touchée. Alors voilà, la question elle est simple. Est-ce que face à la crise du pouvoir d'achat, la même situation est possible en France ?
Exactement, grève historique donc, comme le dit Mao, en Angleterre contre la vie chère. Est-ce que vous croyez à la même chose en France ? Vous nous appelez évidemment au 3216. Pierre Rondeau, est-ce que tu y crois ?
On peut bien évidemment s'y attendre, en tout cas l'imaginer. Il y a un élément qui est très intéressant quand on étudie un peu les indicateurs macroéconomiques et qu'on fait le comparatif entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France, c'est pas uniquement l'inflation. On sait que l'inflation en Angleterre est plus importante, 10% et peut-être même 13% d'ici la fin de l'année, alors qu'en France, on a ce bouclier tarifaire, on ne cesse de le répéter, qui permet de juguler, de contrôler, de ralentir l'inflation.
Enfin, je vais pas dire de bêtises, on est quand même à 7%.
On est à 5,6%, ouais, alors que la moyenne de la zone euro, c'est 7%. Donc ouais, on est en deçà de la moyenne. Et donc, ce qui est mis en avant, c'est le fait de dire que, contrairement à l'Angleterre ou même à tous les autres pays européens, la France parvient à contrôler cette inflation, donc à ralentir une espèce d'une explosion sociale.
Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand? Mais attention, parce qu'il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est un indicateur qui est construit par l'OCDE, une organisation qui regroupe tous les pays développés, qui là ne prend pas l'inflation, mais prend le revenu réel. Donc intègre à la fois l'évolution des salaires, de l'ensemble des salaires issus du travail ou de la redistribution, et qui l'associe au niveau d'inflation. Et la France est le pays de l'OCDE qui connaît la baisse du revenu réel la plus importante, moins 1,9%, alors que par exemple, si je prends l'Angleterre, on est à moins 0,2%. La moyenne des pays de CDE, c'est aux alentours de 1% de baisse. Donc, on a l'Angleterre qui explose, alors que, si je peux nuancer quelque peu la chose, alors que la baisse du revenu disponible réel n'est que de 0,2%. La France, contrairement à l'Angleterre, connaît une baisse de 1,9%, la plus élevée.
T'as beaucoup de chiffres, là. Hein,
les plus élevés, enfin, la plus élevée des pays de l'OCDE. Donc, souffre beaucoup plus que tous les autres, beaucoup plus que tous les autres pays européens et que tous les autres pays occidentaux. Donc, pour conclure, on devrait, en toute théorie, s'attendre à ce que, d'ici la rentrée prochaine, on ait une explosion des mouvements sociaux.
Ouais.
Et si je fais le comparatif avec l'Angleterre.
Thierry Moreau, est-ce que tu crois, Thierry, à une explosion sociale en France?
Alors, je pense que comparaison n'est pas raison. Alors, effectivement, pour toutes les raisons que tu as données, il y a effectivement un risque d'explosion à la rentrée, pour d'autres raisons que l'inflation, tu l'as expliqué. Mais il faut bien comprendre qu'en Angleterre, il y a un effet cocotte-minute très important. La liberté syndicale en Angleterre, elle a été mise à mal par Margaret Thatcher en 84, 85, 86. Je rappelle quand même, comme l'expliquait Mao, qu'elle a tenu une grève pendant plus d'un an. Un an de grève dans certains secteurs, notamment dans le secteur minier, ce qui aboutit à une restriction du droit de grève qui fait que, par exemple, il faut faire un vote au sein de ton syndicat pour que la grève puisse être effective. Et Cameron a durci cette loi, il faut qu'il y ait un minimum de 50% de participation. Deuxième chose, tu n'as pas le droit de faire de grève de solidarité, c'est-à-dire que les enseignants ne peuvent pas faire de grève pour soutenir.
Mais alors justement, regarde ce qui se passe là aujourd'hui en Angleterre, il y a un mouvement un mouvement de grève massif. En France, c'est beaucoup plus simple, je caricature, mais c'est beaucoup plus simple de faire grève, alors pourquoi ça n'arrivera pas chez nous?
Alors, je continue. Effet cocotte-minute en Angleterre qui fait qu'à un moment, ça explose. Et là, on s'aperçoit, et même les syndicats semblent un peu dépassés, c'est la population. Il y a des grèves sauvages.
Absolument.
C'est-à-dire que ce sont, j'allais dire, c'est un mouvement des gilets jaunes, j'en sais rien s'il va s'appeler les gilets jaunes, mais en tout cas, c'est la population qui est dans la rue et qui manifeste.
Les yellow gilets.
Chez nous, c'est un peu différent parce qu'il y a une régulation qui se fait quand même. Alors, on se plaint ici souvent que le dialogue social n'est pas assez important en France, mais il est quand même au moins un peu plus évolué qu'en Angleterre. Et je parle sous le contrôle de Pierre Rondeau. Donc, je ne crois pas que ça arrivera sous cette forme-là à la rentrée en France, même si, évidemment, il y a des risques d'explosion.
Emmanuel Dancourt.
Alors, pour continuer sur la lancée de mes camarades, moi, je crois à une rentrée sociale en France, mais pas de cette intensité-là, pour tout un tas de raisons, parce que, outre les chiffres que j'ai trouvé très intéressants que Pierre a donné et le rappel historique que tu nous fais, Thierry, il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le Brexit, et que jusqu'ici, enfin, jusqu'il y a encore assez peu de temps, finalement, l'Europe, enfin, la Grande-Bretagne a bénéficié du fait d'être membre de l'Europe, a bénéficié de sa forte attractivité, a bénéficié de beaucoup d'immigration. D'immigration avec des ouvriers finalement peu chers et qui se plaignaient pas parce qu'ils étaient déjà bien contents d'être arrivés en Grande-Bretagne. C'était une place financière extrêmement forte aussi, avec des retombées dans toute l'économie. Et puis Boris Johnson qui n'est plus là, Boris Johnson qui impose le Brexit à tout ce pays. Et puis ce pays, il a subi comme nous le Covid, les confinements. Il subit comme nous la peur de la guerre en Ukraine. Donc le fait qu'au minute, je pense qu'il est encore plus amplifié, Thierry, au-delà de tout ce que tu as dit, parce qu'il se passe actuellement, on sait toujours pas qui sera le remplaçant de Boris Johnson. Sa bataille dure. Il y a une espèce d'insécurité en Grande-Bretagne complètement hallucinante. Et comme Pierre le rappelait, eux, ils ont pas de plafond qui les protège, notamment sur les prix de l'énergie qui ont totalement augmenté, qui ont totalement explosé. Et je pense qu'ils sont dans un état de crise où nous, on n'est pas. Et c'est vrai que notre inflation est plus basse que la leur. D'ailleurs, on a l'inflation la plus basse de l'Europe. Et qui fait que. Et puis nous, on la cocotte minute, elle pète régulièrement. Hein. On a des rentrées sociales tous les ans.
C'est pas parce qu'elle est plus basse qu'ailleurs en Europe que tous les jours. On ne nous appelle pas au 32-16 pour nous dire on n'en peut plus. Hein.
Oui, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe en Angleterre. Si c'était les Anglais qui nous appellent, ce serait autrement plus forcené que ça.
Mais on est d'accord, mais tu peux beaucoup souffrir et souffrir.
La souffrance, elle reste là. Je suis désolé, mais l'argument de dire qu'en France, au moins, on a ce bouclier tarifaire qui permet d'avoir une inflation beaucoup plus basse que tous les autres pays de la zone euro, encore une fois, il faut la contrebalancer avec l'évolution du revenu. Qu'on ait une inflation contrôlée, très bien, mais si derrière, le revenu n'augmente pas, eh bien, on a mécaniquement une baisse du pouvoir d'achat.
Ah oui. Philippe est avec nous au 32-16. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
On est à Chevroux, c'est dans l'Ain.
Oui.
C'est près de où ?
En ce moment, je suis pas sur mon
compte. Ah, d'accord.
En vacances à côté de d'Arcachon.
D'accord. Vous êtes.
Il y a 8 jours, je vous aurais appelé, j'aurais peut-être pas dit la même chose.
Ah, bah, dites-nous alors. Aujourd'hui, vous nous dites quoi ?
Aujourd'hui, je dis qu'il va falloir vite se réveiller et puis descendre chercher ce qu'on a droit dans la rue.
Alors, pourquoi il y a 8 jours, vous n'auriez pas dit la même chose ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 8 jours ?
Ben là, vous allez vous promener sur les sites comme Arcachon, Cap Ferret, tout ça et tout, et là, ça pue le pognon à plein nez. Il y a du fric autant qu'un curé peut en bénir, donc l'argent, il y en a en France, sauf qu'il est tout au même endroit. Donc il va falloir aller le chercher, autrement, on n'aura jamais rien.
Soyons clairs, Philippe, il est où ce pognon, tout au même endroit, dans quelle poche ?
Ben dans les poches de ceux qu'on avait déjà.
Ceux qui sont enrichis pendant le Covid.
Ben oui, mais on dit rien, nous les Français. Il ne faut pas compter sur les syndicats pour se réveiller, ce sont des endormis. Là, ils sont tous en vacances.
Mais
c'est à nous d'aller chercher les choses nous-mêmes, si on en veut.
Quand vous voyez cet argent à Arcachon, il est dépensé, cet argent. Donc, il réintègre l'économie, il rentre dans l'économie, crée des emplois.
J'aurais pu intervenir sur deux sujets aujourd'hui, sur le chef de cuisine. Quand je vois les menus affichés dans les restaurants sur Arcachon, tout ça et tout, c'est du foutage de gueule, les tarifs. Et les Français sont encore assez cons pour se faire avoir. Mais qui continue ? Ils devraient mettre les menus à 50 balles.
Philippe, restez avec nous. J'aimerais vous faire dialoguer avec Fabrice Angéhi qui nous rejoint. Bonjour Fabrice Angéhi.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi et sur RMC. Vous entendez le coup de colère ? Il est court, mais efficace.
Oui, mais on le partage.
Bah oui, mais
il dit aussi.
Fabrice Angéhi, il dit aussi que les syndicats sont endormis. Hein.
Non, mais j'avais anticipé, vous voyez, j'avais écouté attentivement vos auditeurs et votre intervention. Moi, je rappelle tout simplement que la CGT, bien avant la loi pouvoir d'achat, le paquet pouvoir d'achat, on avait, compte tenu de la situation, décidé d'une journée de grève, donc d'un processus de grève qui démarre par une journée le 29 septembre. Donc et ça, c'était avant les vacances. Et malheureusement, la situation conforte et légitime cette nécessité d'un mouvement. Et nous n'avons pas rien fait. On s'est déployé auprès des saisonniers, on a fait des initiatives sur le Tour de France. Il y a énormément d'entreprises en lutte aujourd'hui sur lesquelles nous sommes. Je vais prendre une petite entreprise de la région.
Oui, Philippe, bien sûr, Philippe.
Je vais reprendre la parole après.
Fabrice Angéhi, vous restez évidemment avec nous, mais Philippe veut intervenir.
Oui. Ce monsieur représente-t-il la CGT ?
Oui.
Oui.
Voilà. Donc, que ce soit vous ou FO ou tous les autres, on ne vous voit dans nos entreprises, moi je suis fonctionnaire, uniquement juste avant les élections. Après, vous allez dormir dans vos bureaux là-bas, je ne sais pas ce que vous foutez, mais en attendant, vous ne défendez personne. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de représentants d'ouvriers qui sont syndiqués aujourd'hui. Vous ne pensez qu'à vous. Vous faites un peu comme les politiciens. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de syndiqués, c'est totalement de votre faute.
Oui, j'entends. Écoutez, les situations peuvent être variables. Moi, ce que je vois, c'est que globalement, le nombre de syndiqués augmente. Le nombre de conflits sociaux, notamment autour de la question des salaires, augmente aussi, que les syndicats dont la CGT sont présents. Je prenais donc une entreprise de travaux publics de la région PACA, donc pour rester dans la région Azur Travaux, pour pas la nommer, où les salariés, pour leur première fois de leur vie, se sont mis en grève, ont rejoint la CGT, notamment pour des questions d'augmentation salariale.
Mais il y a quand même un problème. Et il y a quand même bien un problème en France du taux de syndicalisation qui est assez faible. Comment vous, aujourd'hui, face d'un côté à cette colère sociale et de l'autre côté à votre histoire syndicale qui fait que de moins en moins de gens se syndiquent, quelle solution vous proposez pour dire oui, on va prendre en compte vos colères et oui, on va favoriser le taux de syndicalisation? Comment vous résolvez cette équation compliquée?
D'une part, aujourd'hui, le taux de syndicalisation, tout le monde peut regretter qu'il soit aussi bas, mais ça tient d'autres considérations, notamment sur la répression patronale, etc.
Donc, on ne va pas développer
ce sujet-là. Je dis qu'on a affaire pour être au contact de tous les salariés. Je ne dis pas que ce n'est pas notre faute, mais je dis qu'il y a d'autres éléments. Néanmoins, moi, je constate, du moins pour notre organisation, que le taux de syndicalisation repart à la hausse en 2022. On a regardé les chiffres récemment, et donc on est en plus d'un syndiqué de date à date, que beaucoup de salariés rejoignent la CGT et beaucoup se mettent en lutte. Alors, c'est une constante dans notre pays, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a un taux de syndicalisation plus faible que notre pays.
Mais Fabrice Angy...
Pour des raisons d'aller jusqu'au bout. Notamment pour des raisons d'activité syndicale où, par exemple, la protection sociale n'est pas liée au fait d'être syndiqué pour la sécurité sociale, hein, pour les complémentaires, donc d'autres choses comme ça, pas plus. Donc voilà, ça explique cela. Et malgré tout, donc tout le monde remarque, y compris les syndicats donc à l'extérieur, en Europe et à l'extérieur, qu'en France, on a des mouvements sociaux très forts, malgré les syndicalisations faibles. Et ça, de par l'activité
des syndicats.
Donc il y a eu beaucoup de mouvements cet été. Il y en aura à la rentrée.
Oui, mais Fabrice Angéi, ceci étant dit, le dernier mouvement social massif en France, soyons honnête, le dernier mouvement massif, c'était celui des Gilets jaunes, qui s'est fait sur déjà des revendications de pouvoir d'achat, le prix des carburants, c'était ça qui déclenchait la colère des Gilets jaunes. Et on le sait, à l'époque, ce mouvement a complètement transpercé, a complètement dépassé le mouvement syndical. Et d'ailleurs, je ne mets pas en accusation, là, je ne pointe pas du doigt la responsabilité des syndicats, simplement, voilà, ça a dépassé tous les syndicats. Et c'est, on l'a vu, on le sait, le syndicalisme, c'est important, puisque ce mouvement s'est fait en dehors de tout cadre, et il a fini dans la violence, et parce qu'il n'était pas encadré par les syndicats. Je termine. Aujourd'hui, c'est le dernier mouvement de masse qu'on ait eu. Vous dites que vous êtes mobilisés, je l'entends, il y a des grèves dans des entreprises, etc. Mais la crainte qu'on peut avoir, c'est que demain, il y ait un nouveau mouvement social en France et qu'une fois encore, les syndicats soient dépassés, ne soient pas présents.
Et avec quelles conséquences? Je suis désolé, parce que alors c'est pas le procès des syndicats qu'on est en train de faire aujourd'hui, non, loin de là.
Je le dis, oui, le syndicalisme, c'est important.
Tu as rappelé que le dernier grand mouvement social, mouvement social d'importance, c'était celui des Gilets jaunes, qui a débouché sur quoi?
Sur la violence.
Mais est-ce qu'il y a eu concrètement des avancées sociales négociées, dealées, faites avec directement le pouvoir en place? L'inconvénient de passer par ces formes de grève nature, des grèves sauvages comme l'a répété Thierry pour ce qui se passe en Angleterre, c'est qu'on ait une excitation, une augmentation de la violence et des revendications individuelles, sans pour autant qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait une négociation avec le pouvoir en place, avec les pouvoirs publics. Les syndicats qu'on critique ou qu'on n'aime pas, qu'on dise voilà, faible taux de syndicalisation, faible empressement à lutter pour le pouvoir d'achat, les syndicats permettent ces négociations. Oui. On est dans la hiérarchie des normes, on est dans le dialogue, on est dans le passage par les corps intermédiaires. Quand les gens disent « Ah, mais on ne va pas écouter la CGT, FO, parce qu'ils ne représentent personne », au moins ils sont là directement pour discuter, au moins ils sont reçus directement au ministère du Travail, au ministère de l'Intérieur.
Si je peux me permettre, que les syndicats, on ne parle pas pour les syndicats, donc je veux dire, y compris, il ne faut pas confondre la représentation avec le nombre de syndiqués. On a des élections professionnelles, il y a plus de votants que les élections politiques, donc il y a des légitimités syndicales. Là-dessus, le nombre de syndiqués est plus important que le nombre d'adhérents aux partis politiques. Voilà, je m'arrête à la comparaison, mais maintenant...
Allez-y.
Et c'est pas qu'une question de violence. On parlait de grève des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était les ronds-points, c'était pas les grèves. Et ce qui est de nature, justement, à déboucher, parce que c'est pas la question de la violence, c'est quel résultat. Ce qui est de nature à déboucher sur des résultats en matière de pouvoir d'achat, qui ne passe pas forcément par des augmentations de salaire, hein. C'est bien le rapport de force par la grève qui aboutit à une négociation positive.
Alors Fabrice Angy,
c'est ce que nous avons, est-ce que nous mettons en place à la rentrée avec des déploiements, peut-être pas de partout. De partout, il y a des trous dans la raquette, avec des déploiements dans les entreprises.
Fabrice Angéi, vous nous l'expliquez à l'instant, Fabrice Angéi, hein, secrétaire confédéral de la CGT. La CGT, elle est en présence dans les entreprises, dans nombre d'entreprises. Vous dites que vous êtes sur le terrain. Quels sont les retours du terrain, justement? Je vous pose la question. Là, on voit, parce que c'est l'actualité du jour, cette grève inédite en Angleterre. En tout cas, on ne l'avait pas vue depuis très 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 longtemps contre la vie chère. Est-ce que vous y croyez pour la France? Est-ce que vous sentez cette grogne sur le terrain?
Non seulement on y croit, mais elle est nécessaire et on y travaille. Vous voyez, donc, et on y travaille parce que moi, je vois plus autour, on est dans les entreprises, on est aussi dans le monde réel, on discute avec les gens, etc. Je vois les enquêtes d'opinion qui sortent et personne n'est convaincu par la loi pouvoir d'achat quant à l'amélioration de la situation à venir. Je rappelle que pour une majorité de Français, avant la forte inflation, la fin du mois s'arrêtait le 10 pour grand nombre de nos concitoyens. Voilà. Et donc ça, c'est tous des éléments qui pèsent. Donc la colère, on la sent. Maintenant, il faut la transformer en mobilisation. Et c'est notre rôle. Et je rappelle, enfin, je dirais quand même qu'on s'est réunis, donc en juillet, on se réunira à la rentrée de septembre avec les autres organisations syndicales. Et c'est pour la première fois, et ça, je pense que c'est un élément important, que l'ensemble des organisations syndicales, donc 10, y compris avec l'ensemble des organisations de jeunesse, ont signé donc un communiqué qui parle des salaires, qui parle des pensions, etc. Donc voilà, on est en train de construire, ça se construit, donc un mouvement pour pouvoir être efficace, utile aux salariés, à la population, puisque deux Français sur trois, d'après donc une enquête qui vient de sortir, qui est réalisée donc le 8 et 9 août, se déclarent non convaincus et à juste titre par le paquet pouvoir d'achat. Donc ça a été rappelé avant, hein, il ne faut pas voir que l'inflation, il faut voir aussi le revenu réel. Et ça, dans la vie, on le voit, le revenu réel, la précarité énergétique, etc., avec un gouvernement qui promet une rentrée difficile pour les Français, encore plus sur le plan économique et financier. Donc toutes les raisons sont là. On constate des mouvements cet été. On se met en ordre de marche. Donc pour avoir une rentrée dynamique, on n'a pas qu'une boule de cristal, mais il n'y a aucune raison de ne pas avoir de... Il y a toutes les raisons d'avoir des mouvements aussi forts que l'on a aujourd'hui dans notre pays comme dans la Grande-Bretagne.
Merci Fabrice Angéhi d'avoir été avec nous. Fabrice Angéhi, secrétaire confédéral de la CGT. William nous rejoint au 32-16. Bonjour William.
Oui, bonjour messieurs, dames.
On est bonjour. En Seine-et-Marne.
Oui, tout à fait.
À Charmy, c'est ça, William ?
Oui, actuellement, je suis en Espagne, mais bon...
D'accord. Bon, encore beaucoup de vacanciers. Et vous les écoutez depuis l'Espagne, tiens ?
Oui, tout à fait.
Ah, c'est bien.
Je vous écoute depuis l'Espagne.
Émission internationale.
Oui. Vous gardez vos bonnes habitudes. Je vous félicite, William.
Il ne faut pas perdre des bonnes habitudes.
C'est
oui,
gentil.
Parce que moi, j'espère, en tout cas, que ce mouvement qui s'est amorcé en Grande-Bretagne va arriver chez nous, en France.
Pour une vous faites quoi dans la vie, William ?
Moi, je suis chauffeur de bus.
Vous êtes syndiqué ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Donc, vous espérez une rentrée sociale ?
Je suis syndiqué, délégué syndical.
D'accord. Donc, vous espérez une rentrée sociale active ?
Tout à fait. Tout à fait. Parce que, comme disait Fabrice Angéhi, nous ne sommes pas du tout convaincus par le paquet pouvoir d'achat qui a été voté dernièrement au Parlement. Parce que, pour la bonne raison que dans ce paquet, il n'y a rien de concret pour le salarié. Il n'y a que des choses facultatives, aléatoires, qui sont mises à la disposition des patrons, à leur bon vouloir. Donc, s'il n'y a rien qui va changer le...
Mais excusez-moi, le bouclier tarifaire sur les énergies, la baisse de l'essence qui va intervenir à partir de la rentrée, ce sont des choses qui vont bénéficier
ça, Thierry,
à tout le monde, non, y compris aux salariés.
Ça va à tout le monde, alors, sur l'inflation, sur le niveau des prix. Quand tu parles de bouclier tarifaire, bouclier énergétique, c'est sur les prix. Là où il a raison, notre auditeur William, c'est qu'effectivement, il n'y a rien qui est fait pour les salariés directement, mais tout est laissé au bon vouloir des patrons. C'est qu'effectivement, le gouvernement a voté des primes, sauf que les primes sont décidées et
par les patrons.
William.
Exactement. Parce que pourquoi ? Moi, je vais vous expliquer une chose. Depuis la Covid-19, depuis 2019 qu'il y a eu la Covid, il y a eu la prime Macron 1. La prime Macron 1, elle était de 1 000 euros. Moi, chez moi, dans mon entreprise, en tout cas dans le groupe pour lequel je travaille, je travaille pour un grand groupe de transport, Transdev en l'occurrence. Jamais on n'a touché la prime Macron à 1 000 euros. Elle est passée à 2 000 euros, on ne l'a jamais touchée. Aujourd'hui, ils ont augmenté le plafond à 6 000 euros. Mais si on augmente le plafond, mais on n'augmente pas l'assiette, ni la mettre à peut-être une partie obligatoire pour les patrons, pour qu'ils puissent en donner aux salariés, vous pouvez monter le plafond jusqu'à 10 000 euros. Moi, si mon patron décide de rien me donner, il ne me donnera rien.
Bah, c'est
la preuve.
Je
n'ai jamais rien.
Ce que disait Pierre à l'instant, William, c'est
exactement.
Ça. Exactement ce que disait Pierre à l'instant, c'est que c'est vrai qu'il y a des décisions qui ne relèvent que de la direction patronale. Et quand
les primes sont exonérées d'impôts et de cotisations, très bien, ça devrait inciter les patrons à la verser, mais il y en a qui ne veulent pas le faire.
Maxime est à Bouillou. Qui peuvent pas le faire. Maxime est avec nous au 32-16. Bonjour Maxime. Et merci à William d'avoir été avec nous. Maxime, on est en Lot-et-Garonne cette fois, Villeneuve-sur-Lot.
Alors oui, bah, du coup je suis chauffeur poids lourd, donc là actuellement je ne suis pas à Villeneuve-sur-Lot.
Mais... D'accord, au boulot. Maxime, une rentrée sociale active, comme je disais, en tout cas chaude, vous la souhaitez ou pas ?
Non, enfin, moi je suis un petit peu aberré, alors j'ai 23 ans, mais il y a des fois j'ai l'impression de vivre dans un monde complètement parallèle, dans le sens où quand j'entends le premier auditeur tout à l'heure, qui est à la limite d'insulter les gens parce qu'ils sont en vacances à Arcachon...
Bah, il les insultait pas, il était en colère.
Ouais, enfin, il était virulent, il les a pas insultés parce qu'il passait à la radio. moi, le week-end dernier, ça tombe bien, j'étais à Arcachon. Et j'ai les moyens de dépenser de l'argent à Arcachon parce que je travaille beaucoup, j'ai un métier qui me prend du temps, je pars du lundi au vendredi. Et oui, bah, ce week-end, j'étais à Arcachon et j'ai dépensé de l'argent. Parce que, aussi, à côté de ça, je fais 200 heures dans le mois. Du lundi au vendredi, je ne suis pas chez moi. Aujourd'hui, on est dans une génération qui ne veut rien faire et qui voudrait gagner 5000 euros par mois. Donc, à un moment donné, il faudrait aussi soigner ce paradoxe-là, quoi.
Il a 23 ans, Maxime, hein. Donc ça remet aussi un peu en cause les propos qu'on entend parfois sur cette jeunesse qui ne veut plus rien.
Il a raison, je veux dire, on ne peut pas être aussi caricatural et d'un côté considérer qu'on a envie de gagner 4 000, 5 000 euros par mois et se plaindre des menus à 25 ou 50 euros à Arcachon. Maintenant, si vraiment on veut aller dans le sens de notre premier auditeur sur la question des inégalités, on sait que depuis la crise, l'augmentation des revenus des 1% les plus riches, que ce soit en France ou dans tous les pays de l'OCDE, a été 3 fois plus importante que l'augmentation des revenus de l'ensemble de la population. Donc il y a une augmentation qui est évidente des inégalités. Je suis pas en train de faire le cliché des salauds de riches, c'est pas ça l'idée. Mais je peux comprendre intrinsèquement l'idée que des gens considèrent que face à l'augmentation des prix et de l'inflation, certaines catégories, eux, ne sont pas directement touchées par l'inflation.
Ouais, enfin, on est aussi le pays de l'OCDE où le salaire minimum est le plus important.
Oui, bien sûr.
On est aussi le pays de l'OCDE où le taux de pauvreté est le plus faible. On a quand même un État qui est extrêmement redistributif, donc on a des matelas qui compensent ça. Alors j'entends qu'il n'y a pas que l'inflation, mais on a aussi d'autres matelas qui soutiennent. Et la prime Macron, elle a été touchée par des centaines et des centaines de salariés. Alors notre auditeur ne l'a pas touché, je suis désolé pour son employeur qui n'a pas voulu lui verser, mais il y en a qui en ont touché des primes Macron.
Merci Maxime d'avoir été avec nous depuis Villeneuve-sur-Lot. En tout cas, il était sur la route parce qu'il est chauffeur poids lourd, mais il est originaire de Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. On vous a posé la question. Grève historique inédite en Angleterre contre la vie chère. Est-ce que vous croyez à la même chose en France? La réponse, Mao.
Oui, 56% des internautes croient à la même chose en France.
Ça suffirait à foutre la pagaille, quand même. Mettre la pagaille. Dans un instant, le tabac, toujours première cause de cancer en France et dans le monde. Faut-il augmenter drastiquement le prix des cigarettes? Ah, ça revient souvent, cette question du prix des cigarettes. Est-ce qu'il faut taper fort pour mettre fin à ce fléau, en tout cas le réduire au maximum? Vous nous appelez au 3216, c'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC, c'est le chiffre du jour, 1 sur 3. Un tiers des cancers dans le monde est dû au tabac. Le tabac, première cause de mortalité en France. C'est ce que confirme Mao, une toute nouvelle étude publiée par le magazine scientifique The Lancet.
Oui, plus de 8 millions de morts chaque année dans le monde, 75 000 en France. Le tabac tue jusqu'à la moitié de ceux qui en consomment. Et malgré ces chiffres, les fumeurs restent nombreux, 17 millions en France. Alors, toujours cette question, est-ce que les prix plus élevés, toujours plus élevés du tabac, peuvent encore dissuader les fumeurs? En France, depuis plus de 20 ans, les industriels du tabac sont libres d'augmenter leurs prix et ils n'hésitent pas. En 2000, le prix moyen d'un paquet était de 3,20 euros alors qu'il est aujourd'hui à plus de 10 euros. Une volonté politique également d'augmenter les prix. Agnès Buzyn avait fait voter en 2018 l'augmentation du prix du tabac d'un euro, espérant alors provoquer une prise de conscience. Et en effet, le nombre de fumeurs avait été en constante diminution entre 2014 et 2019. Mais depuis, ce nombre a arrêté de baisser. Au contraire, les Français les plus précaires sont même de plus en plus nombreux à fumer. Aujourd'hui, 25% des Français fument quotidiennement et ce chiffre stagne. La première génération sans tabac fixée à 2030 semble être un espoir un petit peu vain. Alors, les prix peuvent-ils vraiment dissuader? En ce moment, aux Pays-Bas, un projet de loi est en discussion. Il prévoit de passer le prix du paquet de 8, écoutez bien, à 40 euros. 40 euros. Vous avez bien entendu, avec un objectif, réduire la part des fumeurs dans la population.
Mais ils ont raison.
5%.
Bah, ouais. Ils ont raison.
À ceux qui nous diraient que c'est pas possible, voilà, l'un de nos voisins.
Ils sont en train de le faire.
Qui est en train de le faire.
Attends de voir.
La cigarette, première cause de cancer en France et dans le monde. Faut-il augmenter drastiquement les prix du tabac? Vous nous appelez au 3216. Elle était impatiente de réagir. Emmanuel, tu as la parole.
Bah, il suffit de prendre l'exemple de l'Australie, qui a mis le paquet à 20 dollars. Et ils ont baissé par deux le nombre de fumeurs.
La réponse parce qu'on a déjà fait le sujet. Il y en a plein qui sont en train de décrocher d'appeler le 3216 pour te dire oui, c'est une île. Donc il n'y a pas de contrebande. Enfin, c'est beaucoup plus facile de contrôler.
On sait que ça marche. Alors il y a d'autres exemples que l'Australie, mais c'est vrai que c'est une île. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que.
Les Pays-Bas, c'est pas une île.
Justement, je demande à voir.
Ce qu'il faut, c'est que ce soit cohérent. C'est augmenter
augmenté tous les prix des tabacs. Et en général, le tabac à rouler n'est pas augmenté, les cigarillos ne sont pas augmentés. Et donc, les fumeurs vont se réfugier vers des tabacs moins chers. Et puis aussi, autre chose qu'il faudrait faire, c'est vraiment interdire la vente aux mineurs. Parce que normalement, c'est interdit aux moins de 18 ans. Sauf que 90% des moins de 18 ans, ils se fournissent comme ils veulent chez le buraliste. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. Donc,
dans un instant, on aura un buraliste, Nicolas, qui sera avec nous au 32-16 et qui pourra te répondre.
Mais après, il y a des choses qui se font bien. Le mois sans tabac, alors on en entend beaucoup moins parler. Je trouve que le Dry January, peut-être qu'il faudrait mettre plus d'emphase sur le mois sans tabac. La sécurité aussi, la sécurité sociale, quand elle a commencé à rembourser les substituts de nicotine, ça a aidé les gens à arrêter de fumer. Puis évidemment, l'arrivée de la cigarette électronique qui a déplacé une partie de la population fumeuse sur la cigarette électronique, dont on ne sait pas toujours très bien d'ailleurs ce que ça vaut ou pas. Juste pour terminer, quand on sait qu'en France, toutes les décisions qui concernent le tabac sont prises directement dans le bureau du président de la République, ça dit bien quand même que c'est un sujet qui est quand même hyper important. Et pour le coup, on invite les buralistes, mais on n'invite jamais les associations de lutte contre le tabagisme. Ça dit quand même beaucoup de choses de notre manière de voir les choses en France et de la puissance des lobbies.
Ah bon, on posera la question aussi à Loïc Josseron, qui sera avec nous dans un instant, qui est président de l'Alliance contre le cancer et professeur de santé publique. Thierry Moreau, est-ce qu'on augmente drastiquement le prix du tabac en France? Quand je dis bien, je sais que certains nous écoutent et nous disent "Bah attends, il est déjà à 10 euros le paquet."
Oui,
non, mais là, Mao, c'est un exemple très, très, très frappant qu'elle nous a trouvé. Voilà, quand on dit drastiquement, bah voilà, pourquoi, comme nos voisins néerlandais, on ne passerait pas de 10 à 40?
Et pour te répondre sur l'histoire de l'île, la Finlande a un projet aussi d'éradication du tabac extrêmement ambitieux, avec un objectif à 2025, quasiment en divisant par deux le nombre de fumeurs. Donc c'est une question de volonté politique. Le seul problème, c'est que l'État est schizophrène. C'est-à-dire qu'il touche des taxes, c'est-à-dire qu'il touche 15 milliards de taxes sur... les impôts qu'il touche sur le tabac,
et aussi parce que ça coûte sur les décès, les dégâts du cancer,
sur les décès prématurés et donc les non-versements de retraite. Et à côté de ça, les maladies induites coûtent 25 milliards. Donc voilà, ça coûte plus cher que ça rapporte.
Voilà.
Donc on est schizophrène. Évidemment, il faut une volonté de politique très claire, augmentation, mais aussi campagne de sensibilisation, tu en parlais, mais aussi structure d'accompagnement pour les gens qui veulent vraiment décrocher. Il faut que ça soit un plan global et un plan ambitieux. Et aujourd'hui, on n'a pas ce plan ambitieux. On augmente comme ça au coup par coup de temps en temps, ça réduit un petit peu, ça stagne un petit peu, puis après on remet à augmenter. On n'a pas, il n'y a pas aujourd'hui de volonté politique réelle d'éradiquer le tabac en France.
Pierre Rondeau, le paquet de cigarettes de 10 à 40 euros, on y va?
Alors non, si on suit la première intuition, si on veut vraiment lutter contre le tabac et contre la consommation de tabac, oui, on devrait y aller puisque ça, il va avoir un effet prix. Maintenant, il y a deux choses à prendre en considération. Alors, j'ai fait un petit peu de microéconomie. Si on augmente petit à petit, comme on l'a fait en France depuis 2014, le prix du tabac, il va avoir ce qu'on appelle une adaptation au prix de la part du consommateur. Il va s'habituer à cette augmentation. Si on fait tous les 10 centimes, tous les 50 centimes, il va simplement substituer la consommation d'une strate par une autre. Il va réduire sa consommation de fruits et légumes pour maintenir inchangé sa consommation
de
tabac.
Donc, faut doubler.
Et ça n'a pas d'effet. Et d'ailleurs, ça s'est vu, à partir de 2018, la chute s'est arrêtée vis-à-vis des consommateurs de tabac. Alors, l'autre solution serait d'augmenter d'un coup, comme veulent faire les Pays-Bas, de 10 à 40, comme l'a fait l'Australie, qui est passée de 5 à 20 dollars, comme l'a fait l'État de New York, qui est passé de 5 à 15 dollars, comme l'a fait la Nouvelle-Zélande. L'État de New York est différent, puisque c'est pas une île, donc on peut plus difficilement contrôler le trafic. Mais en ce qui concerne l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on n'a pas le risque du marché noir et du trafic et de la consommation limitrophe.
La frontière espagnole, c'est ça que tu es en train de dire.
La frontière espagnole, la frontière italienne. J'étais en Italie la semaine dernière. Le paquet du tabac est à 4,50 €. On va en Espagne, on va en Andorre, on va en Belgique, partout, dans toutes les zones transfrontalières, le prix du tabac est bien plus faible.
Sachant que l'achat, je sais plus combien c'est une cartouche ou je sais plus, est limité.
Donc c'est deux cartouches par rapport à
la majeure. Tu as toujours moyen, je sais bien que.
Non, mais
certains pourraient autant dire que tu as toujours moyen de renforcer les contrôles aux frontières.
Exactement. L'idée, c'est que malheureusement, dans les deux cas, que ce soit une augmentation progressive, centime par centime, pour atteindre les 20 ou 42 euros du prix de paquet de cigarettes.
Tu multiplies les contrôles aux frontières, à la frontière belge au niveau d'Andorre ou de l'Espagne, et tu tapes vraiment le portefeuille, ça va faire mal. Il y en a plus d'un qui va dissuader.
Ne soyons pas hypocrites, et comme l'a très justement rappelé Emmanuel, sortons de cette prise de décision directement à l'Élysée par le président de la République et admettons une véritable politique de lutte contre le tabagisme. à échelle de l'Union européenne et appliquons un prix normalisé à toute l'Europe. Si les Pays-Bas veulent faire 40 euros, pourquoi alors 40 euros, ça débat. Parce que moi,
c'est très bien
fumeur,
que personne n'ira jamais d'accord à ce sujet.
C'est compliqué.
Non, mais c'est très bien qu'il n'ira jamais d'accord à ce sujet.
Mais c'est tout le problème. Et là, c'est un manque de courage politique. Si vraiment on considère que le tabagisme coûte plus cher en termes de danger, de conséquences, de coût social à la société, véritablement, luttons contre cette consommation et imposons un prix extrêmement élevé, mais normalisé à toute l'Europe.
Mao.
J'ai Franck qui nous dit augmenter le prix ne servira pas à grand chose. Par contre, faire payer les fumeurs leur cancer au lieu de la sécu, ça sera plus
dissuasif. C'est le cas. 80% du prix, enfin, 80% des taxes sur le paquet de tabac va directement dans la lutte contre le cancer. Donc les fumeurs payent, cotisent pour le cancer.
Mais comme l'a dit Thierry, ça c'est loin de suffire.
Alors augmentons la consommation pour augmenter les gains.
Et le coût social, c'est 120 milliards d'euros. Hein. Là, on parle des maladies, mais le coût social, c'est 120 milliards d'euros.
Et vous n'avez pas parlé du tabagisme passif, de tous ceux qui vivent avec des fumeurs et qui sont directement, qui peuvent avoir des...
Tu parles d'expérience ou pas?
Oui.
Moi aussi.
Et voilà, Thierry aussi. Et qui peuvent avoir des cancers alors qu'ils ne fument même pas.
Nicolas est avec nous au 3216. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC. Vous nous appelez depuis le département de l'Isère. On est à Vienne.
Oui, tout à fait.
Nicolas, vous êtes fumeur, tiens?
Non, je ne suis pas fumeur. Mais je suis buraliste.
Je viens de le voir. Vous êtes buraliste. Allez, on augmente le prix du tabac. On passe de 10 à 40 euros le paquet ou pas?
Alors, clairement, si on veut quelque chose d'ambitieux, oui, il faut quelque chose d'ambitieux. Hein, vos chroniqueurs l'ont très bien dit. Bravo. Franchement, tout a été plus ou moins dit. On est schizophrène et on a ce problème-là de dire si on augmente petit à petit. Clairement, nous on le voit. Hein, moi, ça fait 3 ans et demi que je suis buraliste. En 3 ans et demi, l'inflation a été de plus de 20%, voire 25% sur les paquets, ce qui est quand même énorme par rapport à l'inflation normale sur le reste des produits. Ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet sur nos fumeurs. Un paquet qui augmente de 2,50 € en 3 ans, ça n'a pas d'effet sur le fait d'arrêter les fumeurs. Ça va avoir de l'effet un petit peu pour certains sur la contrebande, sur le tabac à la frontière, ce genre de choses, mais ça n'a pas d'effet direct sur la baisse de la consommation du tabac. Et donc après, si on se dit de 10 à 40, ouais, il faut une politique européenne ambitieuse et que tout le monde se mette d'accord, ou même de 10 à 20 ou de 10 à 25. Mais sinon, on repousse le problème, on le déplace. On l'a vu, nous, pendant la période Covid, où on n'a jamais vendu autant de tabac. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer aux frontières.
Ouais, oui.
Donc clairement, on a... Il y a une grosse difficulté s'il n'y a pas une harmonie au niveau de l'Europe.
Ou un contrôle renforcé des frontières. C'est très compliqué, je sais bien, de contrôler les frontières. Mais enfin, si on multiplie les opérations des douanes sur la contrebande de tabac, au bout d'un moment, ça va finir par se savoir. Si on tape fort et qu'il y a des centaines de verbalisations tous les jours, ça va en dissuader quand même certains. Parce que ceux qui vont... j'habite dans le Nord, donc j'ai des membres de ma famille, des proches, qui vont régulièrement, le dimanche, acheter... Alors, pas illégalement, mais qui vont acheter une cartouche, deux cartouches. Mais enfin, ceux qui on ramène plus, on les tape vraiment au portefeuille... C'est pas des délinquants, les gens qui font ça, vous comprenez ce que je veux dire.
Oui.
Ceux qui vont prendre 3-4 cartouches une fois tous les 15 jours en Espagne ou en Belgique, ce sont pas... C'est illégal, mais ce sont pas des délinquants purs et durs, ce sont pas des voyous.
Mais il y en a qui rendent
non, pas. Non, mais c'est pas des voyous, ce que je veux dire.
Oui, mais
non,
mais
écoute-moi,
des cartouches,
c'est pas
qu'il.
Non, mais c'est pas des voyous.
Une fois par semaine.
Non, mais c'est pas des voyous, je parle de ceux qui, pour leur consommation personnelle, le font.
20 cartouches. Il
y en a qui fument un paquet par jour, tu le sais, il y en a beaucoup.
Même deux.
Donc, ceux qui vont s'approvisionner pour leur consommation personnelle et qui prennent un peu plus que ne l'autorise la loi, c'est pas des voyous. Mais si, il y en a beaucoup, et c'est la majorité de ceux qui font ça. Qui vont s'approvisionner à l'étranger. Si on commence à taper, quand il y en a un qui va se faire prendre et que ça va se savoir dans l'entourage, ça va dissuader beaucoup de monde. Nicolas.
Si, je peux rebondir là-dessus en disant que les gens aujourd'hui sont jouent avec la limite et voire ne la dépassent pas. Mais je sais que il y a quelqu'un qui nous disait, on part à 5 dans une voiture, on va se faire un week-end, ça nous paye le week-end, ça nous paye nos clopes. Mmh. Et donc en fait, ils sont même pas hors la loi avec la limite, ils prennent juste ce qu'il faut, peut-être qu'ils dépassent d'une. Clairement, c'est pas des voyous, c'est pour leur consommation personnelle. Mais du coup, si on passe le paquet à 20 euros, ils feront un week-end tous les 15 jours, un week-end tous les mois, et du coup, ça leur paye largement et un week-end sympa sur la frontière espagnole en bord de mer ou en Italie. Donc on n'arrêtera pas les gens de fumer de cette façon.
Et puis il y a une notion supplémentaire que Mao rappelait tout à l'heure, c'est que les plus gros consommateurs de tabac, ce sont les plus précaires, et qu'aujourd'hui un gouvernement qui à la rentrée par exemple annoncerait un paquet qui passe de 10 à 20 euros va se prendre une volée de bois vert, et on parlait de risques sociaux tout à l'heure et de manifestations qui peuvent être gigantesques. Ce sont les plus précaires qui fument le plus. Il ne faut jamais oublier ça.
Mais si on revient sur le plan de la santé, le Comité national contre le tabagisme, étude à l'appui, a pu prouver quand tu augmentes le prix de 10%, tu baisses le nombre de consommateurs de 4%. Il y a quand même quelque chose...
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on va augmenter la contrebande d'autant. En fait, c'est ça qui se passe. Ces chiffres sont faux, et le Covid l'a démontré. C'est là où vraiment, officiellement, dans les chiffres tabac,
parce qu'il se base sur les ventes officielles.
Tabac officiel.
Voilà, sur le tabac officiel, mais ce n'est pas vrai sur la vente, sur la consommation réelle qui se passe chez le consommateur. Mais c'est vrai sur les chiffres que nous, on a un fournisseur pour ça. Oui, ces chiffres vont baisser. Alors après, en plus, côté buraliste, clairement, que la consommation baisse un peu parce que le prix augmente, on n'est pas contre. De toute façon, en plus, vous voyez, on
ne perdez pas d'argent.
Exactement. Ouais. Et même, on a moins de travail, entre guillemets, si je vais jusqu'au bout, puisque j'ai moins de paquets à voyer. Dans l'absolu, en étant buraliste, on n'est pas forcément contre ça, puisque on va pas forcément perdre d'argent.
Vous êtes diversifié. La plupart des buralistes ont pris les devants. Ils savent bien, on sent bien le vent qui tourne quand même. Donc, merci Nicolas d'avoir été avec nous. Nicolas, buraliste à Vienne, en Isère. Dans un instant, Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le cancer, professeur de santé publique, sera avec nous. Et puis, vous, surtout, vous continuez à nous appeler au 3216. La cigarette, première cause de cancer en France et dans le monde. Faut-il augmenter drastiquement le prix du tabac? A tout de suite, c'est Estelle Midi sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
On continue de débattre de ce chiffre. Un tiers des cancers dans le monde est dû au tabac. Le tabac, première cause de mortalité en France. Et on vous pose cette question. Faut-il augmenter drastiquement le prix du tabac en France? Vous nous appelez au 3216. C'est Estelle Midi, hein, jusqu'à 15h sur RMC. Tout de suite, c'est comme je vous l'annonçais juste avant la pause, Loïc Josserand est avec nous. Bonjour Loïc Josserand.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. Vous êtes président de l'Alliance contre le cancer, professeur en santé... Pardon.
Président de l'Alliance contre le tabac.
Ah pardon, excusez-moi, j'avais une mauvaise indication. Président de l'Alliance contre le tabac et professeur en santé publique, ça c'est bon jusque-là ?
Tout à fait,
bon.
C'est bon.
Loïc Josserand, vous ne découvrez pas l'information, nous non plus, et le grand public non plus. C'est un article de V-Lancet qui porte sur le tabagisme dans le monde et qui nous confirme une nouvelle fois que ça reste d'actualité. Le tabac est le premier responsable des cancers à travers le monde. C'est la première cause de mortalité évitable, comme on dit, en France. Loïc Josserand, une fois pour toutes, ce que s'apprêtent à faire les Néerlandais, est-ce qu'il faut augmenter drastiquement le prix du tabac en France? Les Néerlandais vont passer de 10, le paquet de cigarettes, 8 euros, de 8 euros à 40 euros le paquet de cigarettes.
Alors 40 euros avec un certain délai, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont cette feuille de route là qui est effectivement une excellente idée, et on ne peut qu'aller dans ce sens là. Toutes les recommandations de l'OMS en matière de santé publique, et là j'entendais précédemment un auditeur qui, je pense, était buraliste.
C'est ça.
Et il y a un mélange régulier de ce qui est dit autour de la consommation et son évolution avec le prix. C'est-à-dire, ce qui fait référence en matière de consommation en France aujourd'hui, ça ne sont pas les ventes, ce sont les chiffres de Santé publique France de consommation. Ça, un fumeur, il se déclare fumeur quelle que soit l'origine du tabac qu'il achète. C'est pas parce qu'il va acheter son tabac de l'autre côté de la frontière qu'il va pas se déclarer fumeur à Santé publique France. Donc, quand on voit les chiffres de Santé publique France qui baissent de façon régulière à chaque fois qu'on augmente les prix de façon significative, on ne peut pas nous expliquer que ça n'est pas vrai et qu'il y a de la contrebande. Donc ça, de toute façon, c'est clair, c'est établi. Vous évoquiez tout à l'heure l'élasticité du prix, parce que c'est le terme technique pour dire que ça baisse de 4% quand on augmente de 10. Donc oui, ça fonctionne, oui, ça marche, et ça n'est pas en mélangeant des chiffres de d'achat transfrontalier, de contrebande, de machin, etc., pour nous expliquer que tout ça ne marche pas au bénéfice de l'industrie du tabac. Donc si, oui, ça fonctionne, oui, il faut augmenter le prix. Le paquet à 10 euros, ça ne pouvait être qu'un point de passage et absolument pas un objectif. Et il faut que ce paquet continue à augmenter. Mmh. Il faut avoir comme prochain objectif de point de passage probablement 15 euros et peut-être après 20 et peut-être après 25 si ça suffit pas.
Alors,
il faut que ça avance et il faut aussi, et là c'est une responsabilité politique.
Bah, c'est ce que j'allais vous poser comme question, Luc Josserand, parce que tout à l'heure l'un de nos auditeurs nous évoquait le sujet, il nous disait que vous, association de lutte contre le tabagisme, vous étiez, c'était son avis, hein, vous allez me confirmer ou pas, peu reçu à l'Élysée. Qu'en revanche, les lobbies du tabac étaient très présents dans le monde politique. Vous avez l'impression d'être entendu. Il y a une réelle volonté politique. Mais quand je dis réelle volonté politique, on le sait, les prix du tabac ont augmenté ces dernières années. Mais vraiment de taper une fois pour toutes du poing sur la table.
Alors, on peut être reçu. Hein, c'est pas ça le problème.
Être entendu, c'est autre chose.
Reçu et entendu, effectivement, ouais. Il y a toujours une crainte aujourd'hui forte de la part des politiques de ne pas toucher au prix du tabac, de voir une révolution s'installer dans le pays si on augmente le prix du tabac. Il faut bien voir qu'il y a 25% de fumeurs en France. Ça veut dire que 75% des gens ne sont pas concernés par cette mesure-là. Également, une majorité des fumeurs sont également des gens, des victimes du tabac, de la manipulation de l'industrie du tabac et qui ont envie de s'arrêter. Donc, de toute façon, une majorité de gens, soit ne sont pas fumeurs, soit ont envie d'en sortir. Donc, de toute façon, taper fort et aller fort sur le tabac, aujourd'hui, nécessite une réelle volonté politique et n'a jamais été un obstacle, d'ailleurs, où que ça soit, et ça a été travaillé il y a quelques années de ça, n'a jamais été un obstacle à l'élection ou à la réélection d'un gouvernement. Donc, c'est en soi. Donc, en revanche, que les lobbies soient très présents, qu'ils agissent de façon régulière auprès de l'Élysée, auprès de Matignon, voire du ministère de la Santé, oui, ça c'est vrai, c'est pleinement vrai. Pour ne rien vous cacher, bien sûr, pendant la campagne présidentielle, nous, on a fait le tour des différentes écuries pour proposer notre plateforme de propositions. Plusieurs des écuries en question nous ont dit « Ah les gars, vous arrivez trop tard, on a déjà vu l'industrie du tabac. » Donc ils sont présents, ils sont là. Et ils vont expliquer qu'effectivement, augmenter le prix ne sert à rien, que c'est un produit qui finalement machin n'est pas si grave que ça, etc.
Ce qui est étonnant, c'est que tout à l'heure, on avait un buraliste avec nous depuis Vienne en Isère, qui était donc en direct avec nous. On a eu régulièrement des buralistes, parce que c'est pas évidemment pas la première fois qu'on aborde le sujet, et de plus en plus. Ouais. Moi, j'ai le sentiment, je sais pas si vous avez le même, Loïc Josserand, que le discours des buralistes a changé quand même. C'est-à-dire que on sait qu'il y a encore quelques années, pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, ils étaient vent debout de qu'il y avait une augmentation. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils ont admis que c'était le sens de l'histoire, ils se sont diversifiés vers d'autres activités et aujourd'hui eux-mêmes admettent que le tabac, on l'augmentera.
Progressivement, il y a se passe en France quelque chose qui s'appelle c'est très technique et ça fatigue tout le monde, mais c'est la dénormalisation du tabac où progressivement on essaye de faire changer l'image. Donc de toute façon, c'est un produit qui, c'est vrai en termes d'image, est un peu en perte de vitesse. Donc vendre un produit qui est un peu en perte de vitesse hein, en termes d'image, qui là, et on le rappelait, vous le rappeliez à juste titre aujourd'hui, le plus du tiers des cancers dans le monde sont liés à la consommation de tabac, c'est quand même pas forcément se dire que je vends un truc qui va tuer son consommateur. C'est quand même quelque chose qui est pas forcément humainement facile à accepter. Moi, cette dimension humaine, il faut quand même pas l'oublier. Moi, je suis médecin. Voilà, donc la mort du patient cancéreux fumeur, pour moi, c'est pas quelque chose d'abstrait. Hein.
Ouais.
Dans des services, signer des certificats de décès avec des gens décédés et aller voir la famille derrière, c'est quelque chose que je connais.
Tout en sachant que c'est une mort évitable.
Donc cette mort-là, quand on parle de ces 30%, effectivement, c'est un peu abstrait. Dans le concret, je pense que malheureusement, un certain nombre d'auditeurs ont aussi autour d'eux des gens qui sont décédés du tabac. C'est une réalité.
Merci Loïc Josserand.
C'est une réalité compliquée à accepter, effectivement.
Merci Loïc Josserand d'avoir été avec nous, président de l'Alliance contre le tabac et professeur en santé publique. On vous a posé la question, on parlait de ce chiffre qui est quand même marquant, un tiers de cancers dans le monde dû au tabac, le tabac première cause de mortalité en France. Alors faut-il augmenter drastiquement le prix du tabac dans notre pays?
Le débat est assez partagé, mais la réponse c'est quand même oui à 52% pour les internautes.
Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi. Aucune Ville française dans le top 10 mondial des mieux adaptées au vélo. La cohabitation automobiliste-cycliste est-elle impossible en France? Vous nous appelez au 32-16, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être chaud, notamment du côté de notre cycliste maison, Pierre Rondeau. Allez, on se retrouve dans un instant sur RMC.